Les temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail.
Merci patron.
Avec Philippe Saunier.
Bonjour. Dans cette chronique des temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail, je vais vous parler aujourd'hui des vœux de notre président de la République, qui mérite bien une chronique, et après tout, s'il a prononcé ses vœux dans une allocution télévisée, c'est évidemment pour qu'on en parle. Alors c'est ce que je vais faire. Je vais la décortiquer et reconnaissez-moi au moins le courage pour cet exercice d'avoir dû l'écouter plusieurs fois. Tout d'abord, notre président a consacré en premier et sur la moitié de ce discours le sujet à la crise sanitaire. Les chiffres qu'il a donnés, les formules qu'il a utilisées sont une démonstration de plus que cette crise est largement instrumentalisée à des fins de base politique. On va y retrouver, c'est pas la première fois, la stratégie de la peur, rappelez-vous, nous sommes en guerre, une vieille combine politicienne, cette stratégie de la peur, comme aussi celle qu'il va encore utiliser, celle du diviser pour régner, et de la recherche de bouc émissaire, donc on a à peu près tout en matière de stratégie de base politique. Alors il a commencé en premier par rendre hommage aux 123 000 personnes décédées du Covid. Alors il n'est pas question pour moi de faire une polémique de mauvais goût dans ce domaine, mais il faut dire tout de même que ce chiffre ne tient pas la route, et il le sait bien entendu. Tous ceux qui ont ouvert le dossier d'un petit peu près savent que nombre de décès à l'hôpital déclarés administrativement Covid sont pour une part, pour une certaine proportion non négligeable tout de même, des admissions originelles sur un autre motif et des décès qui ne sont pas ou peu liés au Covid. Alors bien évidemment, il y en a, mais en tout cas pas 123 000 tel qu'il l'a dit. Alors pourquoi il gonfle ce chiffre? Eh bien, si on se pose la question, évidemment, on trouve la réponse. Il a ensuite évoqué 53 millions de Français complètement vaccinés, et puis après 5 millions de non vaccinés, une façon d'opposer les uns aux autres. Pour ses vœux, il s'est par contre bien gardé de parler de la vaccination pour les enfants, un sujet qui fâche. Alors là par contre, il a été muet. Il a affirmé que la vaccination réduisait fortement la transmission du virus, alors que dans tous les pays du monde où il y a une forte proportion de vaccinés, un pourcentage qui dépasse les 80% dans un certain nombre de pays, dont le nôtre, eh bien, cette affirmation de freinage, en quelque sorte, de la contamination est tout à fait contredite par les faits. Il a aussi affirmé que la vaccination divisée par 10 laisse survenir de formes graves. Je ne développerai pas, mais c'est pour le moins un sujet qui divise nombre de scientifiques. Comme cela est le cas depuis près de 2 ans, les difficultés de l'hôpital public et de ses soignants sont présentées par lui comme dues au Covid, alors que la pandémie y joue un rôle mineur. Un rôle certes, mais un rôle mineur puisque globalement 2% des admissions aux urgences sont liées au Covid, donc il en reste quand même 98% à côté et à traiter. Et en fin de compte, le phénomène qui s'est encore alourdi en 2020, en 2021 et en 2022, eh bien, c'est lié aux fermetures massives de lits, aux réductions d'effectifs qui tiennent finalement, y compris avec la période post-Covid, qui continue finalement de réduire, car les lits et les effectifs à l'hôpital continuent de régresser, y compris dans cette période de Covid. Je tiens à le dire, puisque précisément, il met tout sur le dos du Covid, alors que ce ne sont pas les causes profondes des difficultés à l'hôpital public. Notre président de la République est ensuite passé à d'autres sujets, en particulier le bilan de son action politique, comme s'il s'agissait d'une campagne électorale, avec une hypocrisie particulière qu'il détient en la matière, puisqu'en fin de compte, il utilise son statut et ses moyens de président de la République pour finalement faire campagne électorale sans le dire. Alors, rassurons-nous donc, tout va mieux et c'est ce qu'il va nous expliquer. Il y a, selon lui, une réindustrialisation de notre pays, il va commencer par ça. Et il dit aussi que l'on rouvre des usines. Alors donc, j'ai été surpris de l'apprendre. Alors j'ai cherché dans l'automobile, j'ai cherché dans l'aéronautique, dans la sidérurgie, dans la chimie, dans le pétrole, dans le textile, dans l'informatique et je n'ai rien trouvé. Il y a eu par contre effectivement quelques annonces médiatisées de création de PME, donc de petites entreprises, mais sans lien aucun avec la casse généralisée auquel on assiste depuis des années et tout de même il est en fin de mandat, donc il aurait peut-être pu s'en préoccuper avant. Et les chiffres officiels d'ailleurs de l'INSEE, l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques, confirment bien, y compris là en 2021, confirme bien une baisse de l'emploi industriel depuis le début de son quinquennat. Alors évidemment, pas un mot sur des dossiers lourds, et je pense en particulier à l'entreprise SAM dans l'Aveyron, ça il n'en parle pas, et pourtant il pourrait agir dans ce domaine. Donc en termes de réindustrialisation de la France, il est sans doute le seul à pouvoir le constater. Une autre contradiction aussi, puisque plus loin, en matière de réindustrialisation, il dit « sans l'Europe, nous n'aurions pas de vaccin ». Eh bien, moi, je traduis ça tout simplement par le fait qu'on est incapable, en France, de produire un vaccin, pour peu que ce soit le bon, mais c'est un autre sujet, hein, et que notre industrie pharmaceutique n'est plus à la hauteur en France, alors que nous avons tout de même Sanofi, n'est pas à la hauteur pour faire face notamment aux questions de santé. Hein, je le redis, je mets à part la question de l'efficacité du vaccin, mais tout de même, si l'on ne peut pas produire en France ce qui nous est nécessaire, ça pose quand même question et c'est contraire à son discours sur cette fameuse réindustrialisation. Alors ensuite, il part sur l'emploi et avec une annonce qu'il avait déjà faite d'ailleurs, ce taux de chômage qui serait le plus faible depuis 15 ans. En réalité, les règles de calcul sur le nombre de chômeurs ont changé. Ou plus exactement, elles ont été arrangées. En réalité, il y a 5 catégories de chômeurs classés, le classement ABCDE. Et pour affirmer que le taux de chômage est le plus faible, eh bien, on ne prend que la catégorie A. Donc, évidemment, c'est plus facile. Et cette catégorie A ne tient pas compte de l'évolution de l'emploi précaire. Il y a de plus en plus, d'emplois précaires en France. Donc, ça progresse comme ça progresse aussi en matière de grande pauvreté. Donc, avec un seul critère, évidemment, il peut dire que le taux de chômage est le plus faible depuis 15 ans, mais avec davantage de gens dans notre pays qui sont en situation de détresse, faute de véritables emplois. Alors, parti dans son élan, d'ailleurs, il a glorifié la réforme du chômage, qui, il ne le dit pas, a réduit considérablement le niveau des indemnités. Donc la réforme du chômage, c'est une bonne chose. Les chômeurs touchent moins de sous, mais ça, il a oublié de le dire. Alors après, il partira sur l'éducation de nos jeunes. Alors en matière d'éducation de nos jeunes, il ne parle que de l'apprentissage, en disant que le nombre d'apprentis a doublé. Alors le problème, si l'on réduit l'éducation de nos enfants à l'apprentissage, eh bien il y en a deux, hein, puisque l'apprentissage, en fait, c'est une vieille revendication patronale, en tout cas son élargissement, puisqu'elle permet de disposer pendant des années de main-d'œuvre gratuite, ou quasiment gratuite, façonnée à la main de l'entreprise, et avec des diplômes à minima. C'est ce qu'on connaît de l'apprentissage, hein. Des apprentis que l'on prend et que l'on va jeter au moment finalement de leur fin d'apprentissage et au moment où on devrait véritablement les payer comme il se doit. Donc c'est une pratique qui est quand même généralisée, hein, le fait de prendre des apprentis et de les virer quand il s'agit de leur donner un véritable salaire, et là-dessus, évidemment, pas un mot. Donc l'avenir de nos jeunes qui passerait par le doublement des formules d'apprentissage, moi ça me laisse particulièrement perplexe, puisqu'il y a quand même aussi des études d'un niveau supérieur qu'on pourrait aussi envisager, mais évidemment il n'en dit pas un mot, on en reste sur l'apprentissage, qui n'est pas négatif dans tous les cas, mais quand même n'est quand même pas la solution pour tous nos jeunes. Ensuite, il va parler du pouvoir d'achat. Donc là, une très bonne nouvelle, le pouvoir d'achat s'est amélioré. En tout cas, c'est lui qui le dit. Alors j'ai regardé aussi, à ma connaissance, le SMIC n'a pas bougé au point d'améliorer le pouvoir d'achat. Il y a eu quelques petits ajustements à minima compte tenu de l'inflation, mais ça n'a pas été loin. En tout cas, le pouvoir d'achat en matière de salaire, je parle pas de quelques combines qu'il a pu mettre dans les médias et seulement pour quelques catégories professionnelles, le pouvoir d'achat, à ma connaissance, n'a pas augmenté, ne serait-ce qu'à regarder ce niveau du SMIC. Il parlera ensuite de la retraite minimale à 1000 euros, en oubliant quand même de dire que c'est réclamé depuis des années et que ça n'est pas appliqué dans son quinquennat et que ça ne le sera pas jusqu'à la fin de son quinquennat. Pour 2022, la retraite minimale, c'est-à-dire aujourd'hui, est de 652 euros par mois. Elle n'est pas de 1000 euros. Donc, pourquoi est-ce qu'il en parle alors qu'il n'a pas voulu pendant 5 ans le faire? Eh bien, évidemment, c'est une promesse de campagne électorale, une de plus. Alors, un mot quand même sur l'urgence climatique, puisqu'il va l'évoquer. Il va l'évoquer, mais sans aucun rapport, avec la notion d'urgence, ni avec des mesures proportionnées à l'importance de la situation. Il va parler des déchets plastiques, des emballages plastiques, c'est pas négatif, mais c'est quand même pas directement lié au dérèglement climatique, hein, c'est une mesurette. En matière des règlements climatiques, je dis pas que c'est négatif, c'est positif, mais si on parle de dérèglement climatique, les déchets plastiques, c'est quand même assez acrobatique d'en faire la relation. Alors, il se fend d'une formule, je cite, « tenir nos engagements climatiques ». Alors, c'est beau, sauf qu'il en parle dans son chapitre où il parle de l'Europe. Et si vous me trouvez les engagements climatiques au niveau européen, je veux bien y regarder de près, mais moi je les connais pas et j'ai bien peur que ce soit également des formules creuses. Par contre, les engagements climatiques au niveau national, qui déjà sont particulièrement faibles, il n'en parlera pas. En conclusion, nous avons eu le droit à des formules, donc je vous laisse l'appréciation. Il va finir par plusieurs formules. J'en cite une. Je suis résolument optimiste. Je dirais que c'est bien le seul, en tout cas si vous en trouvez beaucoup qui sont optimistes dans la période, eh bien vous pouvez rajouter Macron sur la liste. Une autre formule aussi que j'ai trouvée savoureuse, la France est aujourd'hui plus forte qu'il y a 2 ans. Alors il faudra trouver ce thermomètre pour mesurer cette force de la France plus forte qu'il y a 2 ans. J'ai pas bien vu dans quel domaine cela pouvait être le cas. Notons tout de même dans ce discours que tout à la fin, mais sans doute pas dans le sens qu'il le souhaite, il va faire toute une série d'énumérations par rapport à notre pays, l'esprit de résistance, du respect des différences. Alors moi, j'ai retenu que ça, l'esprit de résistance et du respect des différences. Au moins, c'est lui qui l'a dit, donc on pourra pas nous dire qu'on l'a inventé. Et c'est peut-être la seule chose de positif que je retiendrai de son discours. Avant de se quitter, eh bien, c'est mon tour à moi après Macron. Vous avez vu que je respectais quand même une certaine hiérarchie. Eh bien, c'est mon tour à moi de vous souhaiter, pour ma part, tous mes vœux pour 2022. Eh bien, je souhaite je souhaite que vous puissiez choisir un nouveau président qui vous ressemble, qui sache, dans son vécu, dans sa chair, ce que les difficultés de boucler la fin du mois signifient. Qui sache, dans son vécu aussi, dans sa chair, le poids des craintes pour l'avenir de ses enfants, par exemple, ou pour le placement de ses grands-parents âgés. Qui sache ce que signifie que batailler, pour le maintien ou la recherche d'un emploi véritable qui permette de vivre vraiment. Qui sache ce que ça veut dire, par exemple, d'attendre des heures et des heures aux urgences de l'hôpital pour s'entendre dire que le cas n'est pas si grave et qu'il faudra revenir le lendemain. Ce n'était que quelques exemples par rapport à un candidat qui vous ressemble. Ce genre de candidat, pour la quasi-totalité d'entre nous, on ne le trouve pas. Et on ne le trouvera pas dans une famille de la haute bourgeoisie qui a payé aux chérubins des écoles privées, ou à la chérubine, il paraît que ça se dit aussi, des écoles privées, des études d'avocat pour finir avocat d'affaires, pour le placer à l'ENA ou le placer à HEC. Voilà pour ce qui me concerne, mes vœux pour 2022, trouver un candidat qui vous ressemble et je vous dis à bientôt.
Les temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail de Philippe Saunier, à retrouver en podcast sur cfmradio.fr, rubrique CFM Clébus.
Le public de jardin de ma tante.
Oh, ben,
ah ben si. Et mon patron, il change de costume deux fois par jour.